n.com.
Bonjour. Vous cherchez la motivation pour vous lancer dans le podcasting? Vous avez envie de connaître l'attitude nécessaire pour aborder les sujets délicats avec vos invités? Vous voulez savoir comment faire un podcast qui marche en Afrique? Eh bien, nous allons répondre à ces questions et à d'autres pendant les 25 prochaines minutes. Bienvenue sur n.com. N.com, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels des médias, du numérique, de l'innovation au Cameroun et en Afrique. Cet épisode est le premier de la saison 3 et c'est un plaisir de vous retrouver, chères auditrices et chers auditeurs. Je me nomme René Nkoa et aujourd'hui, je reçois la podcasteuse camerounaise Tianoute Ngako qui anime « Si maman m'avait dit », l'un des podcasts les plus écoutés en Afrique francophone. Le podcast est produit par Douala Stories. Douala Stories est une entreprise basée au Cameroun, spécialisée en marketing éditorial et en management des contenus éditoriaux numériques. Cet épisode bénéficie du sponsoring de Colorful. Colorful, c'est une application web et mobile de découverte des jeunes talents de la musique africaine qui ne bénéficient pas toujours de suffisamment d'exposition médiatique pour pouvoir vivre de leur art. Colorful apporte donc une solution à ce manque de visibilité en proposant une plateforme qui rend accessible leur travail à travers le monde. On peut retrouver sur Colorful le streaming, la vente en ligne de musique, la promotion des podcasts et la mise en avant de toutes les autres activités liées à la musique. Bonjour Tianoute Ngako, c'est un plaisir de te recevoir dans cet épisode de lancement de la saison 3 de N.com. Tu es une personnalité du monde des médias, de la communication et des arts que l'on ne présente plus. Mais je vais le faire pour les personnes qui, par hasard, ne te connaissent pas et qui écoutent cet épisode de podcast. Tu as commencé ta carrière comme étant journaliste. Tu as travaillé notamment pour le journal Le Monde et TV5 Monde. Ensuite, tu es entré au Cameroun en 2016. Où tu as lancé Omencart, qui est une entreprise spécialisée dans la communication. Tu t'es fait connaître par tes activités dans le domaine de l'art aussi, en étant l'initiative de Douala Art Fair, un événement qui a pour ambition de mettre en avant le travail des artistes camerounais et africains. Aujourd'hui, tu déploies toutes ces activités, non seulement au Cameroun, mais aussi en Afrique de l'Ouest et aussi en Europe. Est-ce que ce petit portrait correspond au personnage ou à la personnalité qu'est Tianoute Ngako?
Oui, je trouve que c'est très bien. Quand on est une personne multipotentielle, c'est toujours un peu compliqué de décrire tout ce qu'on fait. Mais en fait, pour une personne comme moi qui a une agence de com, a un concept store, Voudart ou Douala Grand Mall, a ouvert une... Il y a 2 ans, une maison d'édition, en tout cas, qui fait des beaux livres. Bah, c'est un peu compliqué pour les gens de suivre. Donc, je pense que quand tu dis femme d'affaires, j'ai une femme d'affaires camerounaise. En fait, ça englobe tout et les gens sont beaucoup moins critiques dans les choix que l'on pose.
Donc, on va te définir comme étant une femme d'affaires camerounaise. Voilà. Au milieu de toutes ces activités que tu déploies un peu partout dans le monde, ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cadre de ce podcast, c'est ton activité de podcasteuse. Tu as lancé le podcast « Si maman m'avait dit » le 27 février 2020. Un podcast qui compte à ce jour 39 épisodes. Ma première question est simple. Pourquoi as-tu voulu faire un podcast?
Moi, à l'époque, il y avait un podcast que j'aimais beaucoup qui s'appelait « La Poudre ». Et donc, Et donc j'écoutais des histoires, ou même Femmes puissantes de Léa Salamé, je crois, sur France Inter. C'était des podcasts que j'écoutais beaucoup. Et j'aimais comment les interviews étaient emmenées. Mais je ne savais pas spécialement, j'avais pas spécialement au fond de moi l'idée du podcast que j'allais faire. Mais je prenais plaisir et j'estimais que j'avais des choses à dire et que les gens de mon entourage, avec un grand E, avaient des choses à partager. Et puis un jour, en fait, j'échangeais avec ma tata, d'ailleurs, qui est ma première invitée, Jane Tonnier. Et quand j'ai écouté, quand on a une conversation de femme, mais je me suis dit, on a fait 3 heures en parlant de son histoire avant, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et c'est comme ça que je lui ai dit, je vais lancer mon podcast. Il va s'appeler Simon, on m'avait dit, et tu seras ma première invitée. Donc j'ai pris mon téléphone, elle est montée chez moi, et je lui ai tendu le téléphone, et l'entretien s'est bien passé. Et comme c'était un sujet qui touchait beaucoup de femmes, beaucoup de couples, sur le continent et pas qu'au Cameroun, ben, ça a directement une portée. Très rapidement, on a eu 3000 écoutes. C'était relativement puissant de voir l'impact que la radio pouvait faire, enfin en tout cas que l'outil podcast pouvait aussi faire, de donner cette notion aussi d'empathie qui manque souvent beaucoup chez nous. Au sein de l'agence Home & Card que je dirige, on avait déjà lancé un podcast qui n'avait pas fonctionné, entre guillemets, qui s'appelait Histoire raconte, l'idée pour nous, c'était d'aller rencontrer des personnes qui ont de l'expérience, en se disant que quand une personne âgée chez nous décède, c'est une bibliothèque qui meurt. Donc nous, on s'est dit, bon, on va aller les rencontrer, mais en fait, on a fait face à un frein. Un, on n'avait pas de cash, mais deux, les personnes qui nous demandent, qu'on souhaitait interviewer voulaient être payées. Donc en fait, c'était un peu frustrant pour nous, on n'avait pas pensé à ça. Donc on a arrêté. Mais je me souviens que déjà, nous, on se disait qu'on aurait aimé avoir 50 auditeurs. Mais sur le podcast que nous, à l'époque, on hébergeait sur SoundCloud, Histoire raconte, ben, on avait déjà 200 écoutes par mois. Ce qui fait que quand j'ai décidé de lancer, Simon m'avait dit, moi, j'étais plutôt partie sur une idée d'avoir 300 auditeurs par épisode. Et pour moi, j'étais déjà très contente.
On a remarqué qu'en 2020, en février 2020, qui est quelque part le moment où le Covid s'est manifesté comme étant une pandémie. Il y a eu beaucoup de podcasts qui ont été créés, qui se sont lancés dans le monde entier. Est-ce que le tien n'est pas dans la même veine?
Ah, mais en fait, je crois que c'est surtout en mars 2020 qu'il y a vraiment eu un vrai déclic. Et comme tu l'as si bien dit, moi, j'avais lancé le 27 février. Donc, je pense pas, pour moi, en tout cas, c'est sûr, c'était pas vraiment lié à la pandémie. Mais par contre, je suis persuadée que les gens, parce que nous, nos auditeurs sont majoritairement, je crois, en France. Hein. Je crois que la première audience du podcast, c'est la France, ensuite le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Canada, la Belgique. Et je crois qu'on a juste bénéficié finalement de certaines personnes, notamment en France, qui certainement ont dû nous recommander auprès de leur réseau, de leur famille, pour en faire un podcast ou le podcast leader aujourd'hui sur la zone francophone du continent. Donc je crois que oui, on a bénéficié de l'arrêt, entre guillemets, du monde, ou de l'envie des gens de se retrouver, de l'envie des gens aussi de se connecter à l'essentiel. C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans le podcast. Donc, et aussi d'avoir des vraies conversations. Je crois qu'en 2020, beaucoup de personnes décèdent, les gens ont des doutes, les gens choisissent aussi de revenir, des fois s'installer en Afrique. Ces podcasts aussi, les gens se rendent compte, en tout cas Simon m'avait dit, étaient aussi un médicament au trauma que certaines personnes qui avaient des décisions aussi à prendre. Devait écouter. Donc ouais, je pense que le podcast arrive au bon moment.
Je me rappelle notamment en classe de 3e, parce que c'était une classe où en fin d'année, il fallait passer un examen. Donc je n'étais pas très disponible, il fallait bosser avec les camarades, il y avait des trucs que je ne comprenais pas, donc je passais beaucoup de temps à bosser. Et en fait, parfois quand je devais faire la vaisselle ou des trucs comme ça, je ne le faisais pas à temps. Et à chaque fois, il y avait des paroles, des trucs comme ça qui revenaient. Comme quoi j'aurais préféré t'avorter, j'aurais préféré ne pas te mettre au monde, c'est compliqué de t'avoir comme enfant, tout ça, tu vas jamais réussir dans la vie, tout ce que tu es en train de me faire subir là, tu vas le subir aussi. Donc ça, c'était des trucs qui étaient, là sur le coup, c'était un peu moins facile à gérer. C'était un peu moins facile à gérer. Je pleurais tous les soirs, je m'endormais en pleurant, je me disais que j'allais jamais réussir dans ma vie parce que En Afrique, on dit que si l'un de tes parents te maudit ou dit un truc sur toi, ça va forcément agir sur toi.
Si maman m'avait dit, est un podcast qu'on peut qualifier de conversationnel, qui traite de sujets très intimes. Dans l'extrait que nous venons d'écouter, tu t'entretiens avec Louise, une jeune femme de 25 ans qui confie que sa mère lui a souvent dit qu'elle aurait aimé l'avorter. Ce qui frappe avec ton podcast est que les sujets sont souvent difficiles. La question qui me vient à l'esprit est celle de savoir ce qui pousse toutes ces personnes à te faire toutes ces confidences.
Ah, bah, peut-être parce que aussi c'est le format audio. Peut-être parce qu'on ne les, voit pas. Donc je crois que les gens font confiance aux auditeurs. Je crois que les gens n'ont jamais vu de... Les gens ne sont pas dans la critique, ne sont pas dans le jugement. Et quand tu es dans un espace sain, bienveillant, bah, tu as plus de facilité à, te confier. C'est pour ça que des fois, moi je me souviens, il y a 2 ans qu'on avait eu Olivia, je crois, qui était la deuxième, enfin la go d'un homme marié. Les gens qui écoutaient, c'était un épisode qui avait créé beaucoup de débats, qui d'ailleurs aussi a fait qu'on a été très connus, je crois. Et les gens m'en voulaient, ou en tout cas certaines personnes, de ne pas avoir bousculé mon invité. Mais en fait, non, ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de regarder mon invité, c'est de l'accompagner dans ce qu'elle a envie de partager. C'est pas spécialement, j'ai pas spécialement envie de la déstabiliser, ce n'est pas l'objectif. Donc je crois que le fait aussi que je prenne le temps d'écouter les gens, que je ne les coupe pas, que je les laisse s'exprimer, que je rebondisse, ça aide aussi beaucoup. Et je pense que pour les gens qui écoutent, vu que moi, je rencontre jamais mes invités avant. C'est très spontané, mes questions. Donc, les gens qui écoutent, des fois, ont les mêmes questions que moi. Donc, eux aussi, ça crée un sentiment de « Ah, je comprends, ah, je me sens bien. » Et eux aussi, demain, ils n'ont pas de problème à venir participer ou des fois même à recommander des personnes à venir participer.
Donc, si je comprends bien, toi, tu n'es pas forcément la personne qui engage la recherche des invités. La plupart du temps, tu as des recommandations, c'est ça?
Alors, quand je me déplace... Je dis, bon, on sera là, on sera au Bénin, on sera à Bamako. Ben, franchement, c'est très rare. Hein. Je crois que si j'ai fait 6-7 postes de déplacement, il n'y a que 4-5 personnes. Je suis à peu près beaucoup d'auditeurs qui ont répondu. Donc, c'est généralement les gens qui viennent vers nous. Ils ont écouté un épisode, ils ont été chamboulés et ils ont eu envie de dire quelque chose.
Recueillir de telles confidences qui sont parfois dures, qui racontent des expériences difficiles, ça peut être un exercice compliqué. Et est-ce que toi, tu parviens à prendre de la distance vis-à-vis de ces histoires difficiles que tes invités racontent sur ton podcast?
Alors, pour répondre à cette question, il faut comprendre comment ça se passe. Quand les gens me contactent, la seule question que je leur demande, c'est qu'est-ce qu'ils auraient aimé que leur maman leur dise? Et ils me disent la phrase, je leur dis OK, parce que je veux juste avoir une idée de quel va être le scope. J'aurais aimé que maman me dise qu'elle m'aime, j'aurais aimé. Ça me permet de comprendre à peu près qui je peux avoir devant moi, parce que je veux toujours garder le côté spontané. Il faut que mes questions viennent au fur et à mesure. Je veux que mes invités, en écoutant, aient envie de poser les mêmes questions ou comprennent aussi la pertinence des questions que je pose, parce qu'on écoute l'histoire de la personne pareillement. Et ensuite, des fois, souvent même, je suis très surprise par ce que j'entends. Et puis, des fois aussi, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'une fois que... En fait, une fois que je termine l'épisode, moi, je l'envoie à Herman Kamdem, qui lui monte. Je n'écoute plus, en fait. Sur le coup, ça peut me dépasser. Mais une fois que j'arrête de tourner, je peux échanger avec la personne qui m'explique un peu plus les choses. Mais des fois, oui, il y a des sujets, des épisodes que moi, je n'écoute plus, enfin, la plupart, et que je réécoute quand je vois qu'il y a tout un intérêt. Je me dis, mais attends, de quoi il s'agit? Pourquoi tout le monde parle de cet épisode? Mais non, j'ai beaucoup de recul. Bien sûr, il y a des histoires relativement compliquées, mais je crois que c'était surtout au début, les gens étaient vraiment inquiets, je crois, avec Nathalie, qui avait perdu son enfant, bref, qui racontait ces histoires au début du podcast, qui étaient relativement dures, et les gens se disaient, mais comment je fais mentalement? Mais... Je me souviens d'un épisode avec Audrey. En fait, elle me parle de ses 2 enfants qu'elle aime. Mais il y a quelques semaines, elle a fait une tentative de suicide. Et je comprends donc que tu peux aimer tes enfants, mais être tellement plus bas que tu aies envie de partir. Parce qu'elle, pour le coup, elle avait été abusée par son père. Donc c'était très très fort. Et moi, je me souviens qu'Audrey, elle faisait plein de gestes. Elle tenait ses mains, elle s'étirait. Et moi, je la regardais au fond de moi, je me disais, mais what's going on? Mais dans le regard que je posais sur elle, c'était en mode, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, rien ne se passe. Mais j'ai vu à travers les gestes qu'elle posait, que l'exercice qu'elle avait accepté de faire, qu'elle avait voulu faire, était aussi une thérapie et n'était pas facile en fait. Prendre la parole sur le podcast, Simon m'avait dit, c'est pas si facile que ça.
Vous êtes sur N.com et aujourd'hui nous recevons Ndiano Tengako. Dans la première partie, nous avons exploré les relations qui peuvent se nouer entre notre podcasteuse et ses invités. Dans la seconde partie, nous abordons les aspects plus techniques liés à la production du podcast. J'en profite pour rappeler que cet épisode de N.com bénéficie du soutien de Colorful, qui est une plateforme de streaming musical et vidéo. Nous sommes de retour avec Ndiano Tengako et dans cette deuxième partie du podcast, on va aborder des questions beaucoup plus techniques. Mm-hmm. Peux-tu nous décrire la réalisation d'un épisode de Si Maman m'avait dit et quelles sont les grandes étapes de production du podcast Ndiano Tengako?
Alors, moi je dis, il faut faire simple. Hein. Dès que c'est compliqué là, tout le monde est blasé, tout le monde est fatigué. On trouve l'invité, on se rencontre à mon bureau, dans une zone un peu calme. C'est déjà arrivé chez moi aussi. Des fois, quand on tourne à Yaoundé ou à l'étranger, on prend une chambre d'hôtel et on enchaîne tous les tournages. Herman, lui, se prépare parce que lui gère le montage. Quand il y a des personnes qui veulent changer de voix, s'arriver deux, trois fois, il gère aussi ça. Et après, on a Boris qui va faire les visuels. Et après, on diffuse et on va juste partager sur les réseaux sociaux la première semaine et puis on va le laisser vivre. Donc c'est un peu ça. Il n'y a vraiment rien de ouf. Après, moi, je ne gère pas du tout le côté technique. Ça va vraiment être Herman. Donc, c'est lui qui va installer les micros, c'est lui qui va installer les casques, c'est lui qui va lancer l'enregistrement, qui va arrêter. Quand on arrête, voilà, c'est dire où on s'est arrêté pour que lui puisse des fois savoir où il coupe. Parce que voilà, j'essaye aussi de lui faciliter la tâche dans le sens où vu que lui, il travaille à l'agence de com, donc il a beaucoup de choses à faire. Donc, quand c'est moi qui enregistre, je lui dis là où je me suis arrêtée, pourquoi je me suis arrêtée. Donc, même quand il écoute, il n'y a pas de risque qu'il prenne une mauvaise partie.
Malheureusement, Herman Com, qui est ton technicien, n'est pas avec nous. Parce que là, j'ai une question sur l'aspect technique dont on parle là depuis quelques minutes. Quel est le matériel et les logiciels que tu utilises qu'on utilise ou qu'Herman utilise dans la production du podcast?
Alors, pour le logiciel, je ne pourrais pas dire, mais je crois que lors d'une rencontre qu'on avait fait chez toi, il en avait parlé, donc je ne sais pas. Mais peut-être que d'ici là, on pourra lui poser la question.
Je pense que c'était Adobe Audition.
Voilà, peut-être Adobe Edition, mais je crois qu'il en utilise deux. Je crois qu'il en utilise deux. Et maintenant, en matériel, on a trois casques. Un pour lui, un pour moi, un pour notre invité. On a un enregistreur. On a un matériel pour couper le son. Il a un ordinateur dédié, fully dedicated. Je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est tout.
Donc, du coup, ce n'est plus avec le téléphone que ça se passe comme au début du podcast?
Non, non, non. Mais ça arrive encore, hein. Ça arrive, surtout quand je voyage, d'ailleurs. C'est vrai, quand ça arrive, parce que bah, quand je voyage, Herman, il n'est pas là. Et vraiment, j'ai tellement peur de ne pas bien faire que je prends mon téléphone. C'est beaucoup plus simple.
Aujourd'hui, ton podcast compte 350 000 écoutes. Ouais. Et ce qui fait près de 9 000 écoutes par épisode. Ce qui est, on va dire, sans se tromper, un record hein, pour le cas de l'Afrique francophone. Pour toi, qu'est-ce qui justifie ce succès de ton podcast?
Je pense que, comme tout à l'heure je disais, la première des choses, c'est que les gens se reconnaissent dans les histoires. Ça peut être leur histoire ou l'histoire d'une personne qu'ils connaissent. Les personnes afro-descendantes, qu'elles soient africaines ou afro-something, elles sont de plus en plus sensibles à tout ce qui est question de santé mentale. Parce qu'en fait, la santé mentale, c'est la santé. Je crois aussi que les personnes ont trop souvent gardé en eux un mal-être, qu'ils ressentent le besoin d'extérioriser. Même s'ils ne le disent pas, ils ne le crient pas haut et fort, bah, ça leur fait du bien d'avoir des personnes, de voir ou d'entendre des personnes qui le font via le podcast. Et surtout, je crois aussi le côté bienveillant du podcast. Et le fait que les invités, on ait toujours le sentiment que les invités sont bien. Donc ça apporte un certain calme, on n'est pas dans le brouhaha, on ne surfe pas sur le buzz, on ne crie pas, on ne s'énerve pas, on est juste serein. Et pour terminer, je dirais le fait que voilà, je pose les questions naturellement à mes invités. Je pense que c'est une des clés du succès parce que quand je pose une question, je suis persuadé que 70% de mon audience se posait la même question.
Et aujourd'hui, après 3 ans d'existence, est-ce que tu as eu des difficultés particulières dans la production du podcast?
Non, pas vraiment. Ce en quoi je fais attention, c'est de me dire que je suis au Cameroun en étant camerounaise et qu'il y a des sujets dont je dois faire attention quand je les aborde, au regard de la loi, au regard de ce qui peut être risqué. Ça nous est arrivé d'avoir des personnalités qui voulaient participer au podcast. Mais au regard de la loi, c'était compliqué. C'était risqué pour eux, déjà. C'était risqué pour nous, peut-être un peu moins, mais c'était trop risqué pour eux. Donc voilà. Après, ce qui est un peu frustrant, c'est aussi quand certains invités choisissent de nous demander de ne pas publier leurs épisodes parce qu'ils sont allés peut-être un peu trop loin, qu'ils ont peur d'être reconnus. Et nous, on doit se souvenir qu'on le fait pour eux, pas pour du buzz, donc on accepte. On comprend que les personnes sont venues exprimer ce qu'elles avaient sur le cœur et voilà quoi.
En 2022, si maman m'avait dit, a fait partie d'une sélection d'une quinzaine de podcasts africains choisis par Spotify pour bénéficier d'un fonds d'aide à la production de 100 000 dollars. Quels sont les bénéfices concrets que toi et ton podcast avaient tirés de cette opportunité?
Bah, la première chose, c'est déjà la reconnaissance. Spotify. Donc déjà, il y a le côté quand même où ça nous booste. Quoi. On se dit, waouh, Spotify, je crois qu'on était le seul d'Afrique francophone d'ailleurs. Et donc là, tu te dis déjà, Cameroun, tu te dis waouh. Et tu te dis, waouh, c'est top qu'ils pensent à nous. Maintenant, le deuxième point, c'est l'argent. Quoi. Ils ont de l'argent pour bosser sur cette saison. Ils ont de l'argent pour pouvoir voyager, pour tourner des épisodes. Et c'était sur une période de 6 mois d'ailleurs qui se termine en juin ou juillet. Donc je dirais le côté reconnaissance, le fait aussi qu'ils aient donc via leur agence de com bah, parlé du podcast, si on m'avait dit. Après c'est majoritairement aux États-Unis, mais enfin à l'étranger en tout cas en pays anglophone. Mais en pays francophone, voilà, ça a juste maintenu encore notre statut qu'on avait. Et les fonds qui nous ont permis bah, nous permettent d'aller un peu plus loin dans la production et de maintenir le cap parce que c'est pas évident de maintenir la discipline de produire un podcast. Donc on est là lundi, mais on n'est pas sûr d'être là mercredi. Et grâce à ce soutien aussi, ben, ça nous permet de tenir et peut-être de faire de ce podcast un lieu sustainable, I mean, de le rendre durable. Merci.
Merci Jean-André pour ta disponibilité et on te souhaite bon vent à toi et à ton podcast, si maman m'avait dit, qui est quelque part un projet pilote, si on peut le dire ainsi, dans l'univers de création numérique et des nouveaux médias en Afrique francophone et au Cameroun en particulier.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on a souvent, j'ai souvent la Deutsche Welle, qui est un des médias majeurs en Allemagne, m'avait demandé de les accompagner. Sur cette idée, ils ont fait un livre d'ailleurs sur comment faire un podcast et c'était Herman qui avait porté ce projet, qui a donc travaillé sur ce projet et après derrière il a fait partie je crois d'une cohorte en Namibie il y a quelques mois et même récemment encore la BBC qui nous a demandé de faire une formation pour des patrons de médias sur le continent. Donc je crois que on a apporté quelque chose et surtout on a rappelé aux gens que ça pouvait marcher. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous on a aussi créé un lien Tipeee où les gens peuvent mettre des sous. Et c'est marrant, il y a des gens au Cameroun qui nous donnent 2000, hein, 2000 francs avec leur carte bleue. Et on a des personnes quand ils ont vraiment aimé un épisode, c'est d'y arriver, qui nous donnent 100 euros. Donc la communauté suit. Et je dirais juste aux gens de se lancer, il y a tellement de sujets qu'on peut aborder ici chez nous. Voilà quoi.
Merci Jean-André. Ce que nous retenons de cet échange avec Jean-André Nkako sont deux choses. La première est qu'il faut savoir prendre recul face aux révélations qui sont faites par les invités d'un podcast comme le sien, qui aborde la question des traumatismes souvent liés à l'enfance. Dans un second temps, nous retenons que le secret d'un podcast réussi réside dans la simplicité. Cet épisode de N.com est arrivé à son terme. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Le podcast a une page dédiée sur Instagram et sur LinkedIn où vous pouvez poursuivre cette conversation. N.com est disponible sur les principales plateformes d'écoute. Je remercie encore Color Fall qui sponsorise cet épisode et je vous recommande de télécharger l'application. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles explorations de l'environnement des médias, du numérique et de l'innovation au Cameroun et en Afrique. À bientôt !